Vous avez vu que le premier titre concerne la cité ou la ville dans la Bible. Le deuxième, c'est Lot. Et le troisième, Moïse. Et j'avais l'intention de faire un quatrième chapeau, ce sera pour une autre fois, et qui était la psychologie de la conversion, ce qui se passe quand quelqu'un se tourne, comme dit Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Je pense qu'avant de jongler avec les concepts psychanalytiques, il faudrait peut-être faire, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, faire une petite recension des concepts. Ce ne sera pas très long, il y en a disons une page, c'est l'affaire de 10 minutes à peu près. Pour certains ça paraîtra banal et puis d'autres ça paraîtra peut-être un peu fouillis. Il faut donc avoir une certaine... ceux qui savent seront indulgents et ceux qui ne savent pas feront un petit effort pour comprendre. Il ne faut pas penser que la psychanalyse soit quelque chose de si horrible. La psychanalyse, c'est une science dans la mesure où elle traite de phénomènes humains de façon systématique et vérifiable. Et il ne faut pas dire de la psychanalyse comme ce vieil Écossais à qui on demandait la raison de sa longévité, un homme âgé, demandait comment se fait-il que vous êtes devenu si vieux, et dit... Je suis né avant l'invention des microbes. Effectivement, les microbes ont toujours existé. À une époque, on ne savait pas qu'ils existaient. Maintenant, on sait qu'ils existent. Et c'est la même chose avec la psychanalyse et surtout l'objet de la psychanalyse qui a toujours existé. Si bien qu'on n'est pas du tout surpris de trouver les hommes de la Bible, dans la mesure où ils sont hommes, se comporter entièrement comme des hommes du XXe siècle qu'on psychanalyse. Et les réactions culturelles sont aussi susceptibles d'un abord psychanalytique. Par abord psychanalytique, je veux dire une analyse dans le champ de la psychanalyse avec les concepts de la psychanalyse. Alors, il y a d'abord une différence fondamentale entre la visée de la Bible et la visée de la psychanalyse. La visée de la Bible est une visée totale. Les premiers chapitres de la Genèse nous montrent la triple appartenance de l'homme sous forme de trois naissances. Adam est formé, ensuite Ève est formée d'une façon particulière et ensuite Cain naît d'une troisième façon. Ce qui nous montre que la Bible nous situe déjà l'homme comme appartenant à l'univers et à Dieu, appartenant au couple et appartenant à la lignée. C'est donc une vue très générale, très globale, très molaire. La psychanalyse est beaucoup plus humble dans sa démarche. Elle se contente d'étudier les modes de fonctionnement de l'esprit de l'homme de sa naissance à sa mort. Elle se place dans une perspective génétique historique, alors que la Bible se place dans une perspective générale qui ne tient pas compte, qui est délibérément, de l'histoire. Les choses sont comme ça, et on ne tient pas compte ni de l'inné, ni de l'acquis. Et par exemple, à la place des relations de Dieu à l'univers que pose la Bible, la psychanalyse n'en voit que la réfraction dans le rapport des enfants aux parents. Elle ne préjuge pas du tout de l'existence de Dieu. Si Freud a été jusqu'à dire que la religion c'était une illusion, il voulait dire par là que ce n'est pas vérifiable en termes de concepts psychanalytiques. Il n'a pas voulu dire autre chose que ça. Évidemment, on a tiré la couverture à soi et on lui a fait dire bien des choses qu'il n'a jamais dites. Le rapport de Dieu, de l'homme à l'univers et à Dieu ne paraît pas dans la psychanalyse. Et le rapport non plus à la lignée et au groupe ne paraît pas. Il est repris. Ces deux aspects sont repris dans le deuxièmement, c'est le rapport au couple. Toute l'histoire de l'enfant se fait à travers la métaphore, les métaphores parentales. Vous voyez déjà la différence de champ. Non, les instruments. La psychanalyse est un discours, elle emploie des instruments. Vous savez qu'elle utilise les concepts de stade. Ça veut dire que l'individu se développe selon des stades qui se suivent régulièrement. Vous avez le stade oral, c'est-à-dire le moment de la vie de l'enfant où l'enfant est marqué par l'essentiel de son activité, c'est-à-dire une activité digestive à forme orale. Puis un peu plus tard, cette activité s'allonge un peu le long du tube digestif et elle devient anale au moment où on insiste beaucoup sur la discipline de ses sphincters. Et la vie est vue en fonction de ses expériences. C'est ça la réalité. Et puis plus tard, les expériences avec le monde extérieur deviennent plus compliquées. Avec les relations au père et à la mère, des gens de différents, c'est le signe des différences, est basé sur la génitalité. Il faut avouer que ce dernier stade n'est souvent qu'amorcé dans la maturité des êtres. Il faut bien dire que notre société ne favorise pas beaucoup cette maturité-là. Et c'est un aspect que nous verrons au niveau de la culture, de voir que cet aspect mature, cet aspect adulte est finalement très peu souvent atteint chez les gens normaux, encore plus rarement chez les névrosés, et pour ainsi dire, jamais dans notre culture qui est basée sur autre chose. Avec les stades, vous avez aussi les instances. Par instance, on veut dire que notre esprit, notre personnalité fonctionne avec trois zones ou trois niveaux avec des interférences dialectiques. Vous avez le surmoi qui est le dépôt de toutes des impératifs sociaux, des règles de l'éducation, de tout ce qui vient de l'extérieur et qui infléchisse la conduite de l'enfant dans un sens ou dans un autre. Il y a ensuite le ça. On dit le ça, c'est-à-dire ce sont tous les instincts. Tous les êtres qui naissent est un réservoir d'instincts qu'il pousse dans toutes les directions les plus anarchiques, qui visent à la satisfaction, au plaisir, et qui n'est limité que par le surmoi, autrement dit, à la naissance et au début de sa vie, un enfant est pris entre deux forces, les forces éducatives et les forces de l'instinct. Et entre ces deux forces apparaît petit à petit une troisième force, une troisième instance qui est le moi, et qui est une sorte d'arbitre entre les exigences de l'extérieur et les exigences de l'intérieur. Bon, ces trois instances établies qui n'existent pas dans la réalité, ce sont des concepts. On les vérifie quand même au moment du fonctionnement dans un rapport dialectique. Un autre aspect important, c'est l'existence de l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient, qui n'a jamais été conscient et qui ne sera jamais, et ce qui est ultérieurement devenu inconscient parce que ça gênait une sorte d'unité de la personne que tout être vivant cherche à établir. Il veut être un sans trop de contradictions. Je ne dis pas sans contradictions, ça n'existe pas, sans trop de contradictions. Alors pour éviter les contradictions et les aspects désagréables de soi-même, aux yeux de soi-même, on en refousse une partie dans le néant. Les choses ne disparaissent pas pour autant, puisqu'elles nous jouent de mauvais tours. Elles réapparaissent, tout le monde le sait, à travers les lapsus, à travers les accidents, à travers les erreurs, à travers les échecs. Enfin, c'est toute la psychopathologie de la vie quotidienne que vous connaissez et que Freud a écrit. Avec l'introduction du moi, cet arbitre entre les forces éducatives et les forces de l'instinct, est apparue toute une psychologie du moi. Et avec cette psychologie du moi, vous avez ce qu'Anna Freud a appelé les mécanismes de défense. C'est-à-dire, c'est tous les processus, toutes les stratégies que nous adoptons pour garder une bonne image de nous-mêmes. Alors ces mécanismes sont très variés et ils ont tous à faire avec l'inconscient. Vous avez les déplacements, vous avez le refoulement, vous avez le retournement, son contraire, vous avez les sublimations. En particulier, les déplacements sont bien connus, c'est ce qui donne naissance aux phobies. La phobie, c'est avoir peur d'une petite chose insignifiante, au lieu d'avoir peur de quelque chose de plus grave, mais ça gênerait davantage. Vous avez donc cette économie libidinale qui fait que le vrai objet de peur disparaît. Et enfin, au-delà de tout cet échelonnement de concepts, vous avez le concept de maturité dont on parle peu. S'il y a des stades, s'il y a des instances, c'est qu'en fait, et il y a croissance, et cette croissance doit aboutir théoriquement à la maturité. Et là, l'année dernière, on avait abordé un petit peu ces problèmes-là. Et c'est une question qui est très importante pour des chrétiens, parce que dans la mesure où on pense que la conversion nous remet sur des rails pour faire quelque chose, pour devenir quelque chose, se repose à nouveau cette question de maturité. Est-ce qu'on va rester au stade immature où nous étions avant la conversion, ou au stade immature auquel nous condamne la société, ou bien est-ce que nous allons aller plus loin ? Bien que la société ne nous y aide pas, la culture ne nous y aide pas, c'est ce qu'on va voir. Et les trois aspects, thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, demain et après-demain, je crois, enfin les jours suivants, je voulais voir la forme de la culture. Deuxièmement, avec Lot, le flirt avec la culture ou la dialectique homme-culture. Enfin, chrétien-culture, plutôt, c'est notre perspective. Et le troisième aspect, avec Moïse, c'est la façon dont Moïse préfigure le type de personnalité qui émerge d'une forme de culture pour accéder à autre chose, à un appel, devant un appel. D'une part, il va partir, il va être libéré, et il va pouvoir devenir libérateur. Et quand on lit attentivement, avec, je ne dirais pas biaisé par notre perspective, nous voyons qu'il se passe chez Moïse beaucoup de changements. Et c'est ces changements-là que nous verrons au moment voulu. Bon, prenons le sujet d'aujourd'hui, c'est la ville. Bon, on peut commencer par une petite colle. Quelle est la première ville de la Bible ? Qui l'a construite ? Comment s'appelle-t-elle ? Voilà, Caen, et la ville s'appelle ? Enoch, puisqu'il lui a donné le nom de son fils. Cette ville apparaît au chapitre 4, au verset 17. Alors, cette ville n'est pas venue de rien. Quand on lit la Bible d'un air innocent et distrait, on s'aperçoit que dans ces premiers chapitres de la Genèse, il est beaucoup parlé de villes, des petites et des grandes. On dit, ah bon, on voit un catalogue de villes, tiens, on s'aperçoit que des gens construisaient des villes, et un point c'est tout. Et on ne se demande pas pourquoi, et on ne se demande pas surtout qui les a construites et pourquoi. Et justement, il est symptomatique que Caïn ait réagi à sa vie, aux événements de sa vie, par la construction d'une ville. Caïn était le fils d'Adam. Et comme son père, il était cultivateur. Mais il y avait eu un glissement dans la conception du monde de l'un à l'autre. Pour Adam, cultiver le sol était d'abord l'indice de l'honneur que Dieu lui faisait de travailler avec lui. Il lui avait dit que de soigner le jardin pour lui. Il était associé au travail de Dieu. Après la chute, il est encore cultivateur, cette fois-ci, on l'avait vu l'année dernière, à titre de réparation. Il y a dans le travail de Caïn un aspect ergothérapique ou psychothérapique pour qu'il le sauve de la dépression. Ça se voit très, très nettement, j'entrerai pas dans le détail. Pour Caïn, les choses ont changé. Caïn va faire de l'occupation de son père une éthique. Il va être, lui, cultivateur à plein temps, il ne va faire que ça. Il a dit, et Caïn cultivait le sol. C'était vraiment une vocation totale pour lui. Deuxièmement, il s'approprie la terre. Et au lieu d'être le gérant de la terre, il devient une sorte de propriétaire de la terre où il s'établit, il la domine, il la maîtrise. Nous avons donc avec Caïn un nouveau mode d'organisation du monde et de soi. Si vous vous souvenez de l'histoire de Caïn, il a eu très peur d'être tué. Et quand il a dit à Dieu, mais quand on me rencontrera, on me tuera. On lit cette phrase-là, on dit, tiens, ben, c'est vrai, pourquoi pas. Mais la question qu'on doit se poser, c'est, mais où est-ce qu'il avait pris qu'on allait le tuer ? Qu'est-ce qu'il lui avait dit ça ? Et où est-ce qu'il avait vu des meurtres avant ? Le seul meurtre qu'il avait vu, c'était celui qu'il avait fait. Autrement dit, vous avez ici un magnifique mécanisme de projection. Il projetait sur la société autour de lui ses intentions meurtrières. Il a dit, on va me faire ce que j'ai fait. Et c'est lui qui a vu, qui a décrypté dans le monde autour de lui, cette possibilité de tuer. Vous avez donc la projection. Vous avez aussi la peur. Car peur, il manifeste son angoisse de plusieurs façons. Et je pense que toutes ces attitudes-là, d'une part de négation de l'autorité de Dieu, qui était à l'origine de sa position dans la vie, de sa situation, sa réaction de projection, ses réactions d'angoisse, vont l'amener à construire une ville. Pourquoi une ville ? Parce que la ville, c'est au moins une localisation simple de la peur. Vous avez dans la ville un processus de clivage. Le bon est à l'intérieur, le mauvais est à l'extérieur, on va être séparé par une muraille. On va pouvoir se défendre. C'est déjà une première tentative de séparer le bien du mal, que Melanie Klein appellera plus tard le bon saint et le mauvais saint. C'est un processus de clivage, et Cain fonctionne comme ça. La ville va être pour lui la matérialisation, la représentation de son univers intérieur par une tentative d'expulser le mal à l'extérieur pour tâcher de se considérer comme bon à l'intérieur. Et la ville va représenter ça. Et nous avons donc cette première ville que Enoch, du nom de son fils, va être une création de l'homme pour l'homme. Une sorte de nouvelle création que Cain va pouvoir maîtriser, dans laquelle il va être le maître, qu'il va connaître. C'est une sorte de métaphore de la création que Dieu avait faite. Mais dans cette création qu'il a faite, il va se sentir plus à l'aise parce qu'il en sera le maître, lui. Vous voyez déjà cette opposition de la ville, de la création de l'artifice à la création extérieure. Et bien sûr, derrière cette tentative donc de projection, de clivage, il y a aussi la mégalomanie infantile, la toute-puissance. Et puis, voilà le déluge qui va arriver, va dire, bon, bien, l'affaire est liquidée, on ne va plus entendre parler de ce genre de mécanisme, ou bien de la fonction de la ville, de cette façon-là. Or, pas du tout. Quand vous voyez l'apparition des villes, dans le chapitre 11 de la Genèse, vous avez toute une série de villes, tous toutes plus grandes les unes que les autres. Il y a Babel, bien sûr, dont nous allons parler. Il y a Ninive, il y en a plusieurs autres. De ce pays-là sortit Assur, Calac et Rézène, entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Et tous ces gens-là qui vont constructeurs de villes vont être des descendants de Cam. Et le fondateur de Babel, ce sera Nemrod. Nemrod, c'est le petit-fils de Cam. Cam va engendrer Cush, et Cush va engendrer Nimrod. Nimrod a affirmé, s'est posé dans l'existence comme étant un grand chasseur de l'Éternel, devant l'Éternel. Et que Dieu fasse ce qu'il voudra, moi je suis chasseur. J'ai une fonction, j'ai une identité, et c'est ce qui importe. Il se pose une identité, il se donne un nom, une fonction, devant Dieu, c'est-à-dire en s'opposant à Dieu. Oui, qui est Cam, justement ? Cam, c'est un des trois fils de Noé. Et quand vous lisez l'histoire, vous voyez que Noé avait eu une mission juridique et une mission prophétique. Il avait été dépositaire d'une alliance et dépositaire d'une loi. Ce pauvre Noé s'enivre et puis il se déshabille devant ses trois fils. Et il y en a un qui a l'air d'apprécier le spectacle, qui va raconter ça à ses frères. Derrière ça, vous avez une démarche typiquement, enfin pour un psychanalyste, ça ne trompe pas, c'est la dérision du père. Et finalement, dans cette démarche, vous avez toute la négation de l'autorité du père. Justement, ce père, qui était dépositaire de l'alliance, qui était dépositaire de la loi, il est comme moi, je suis comme lui. Où est donc l'autorité ? Nous sommes pareils. Après tout, le père est comme moi. Il n'a rien de plus que moi. Et en jargon psychanalytique, c'est la confusion du phallus et du pénis. Ce père, comme ça, désarmé, nu, il n'a plus l'autorité. Or, la négation de l'autorité du Père, c'est Cam qui l'a affirmé, et les deux autres fils n'ont pas accepté la négation de l'autorité du Père. Ils couvrent sa nudité pour qu'il garde cette autorité. Et lui, Cam ne l'a pas accepté. Et nous voyons déjà s'amorcer dans la lignée de Cam la négation de l'autorité. Et tous les fils de Cam vont baser une culture sur cette négation de l'autorité. Ils vont être à eux-mêmes leur chef. Ils vont être aussi forts que le Père, comme le Père. Et derrière cette négation d'autorité, il y a aussi la négation des différences que nous pouvons voir émerger de plusieurs façons. Cette réduction du symbole à l'objet, des choses à l'apparence, c'est une mesure très connue, vous la trouvez dans le Nouveau Testament, et quand les gens ont vu paraître Jésus, ils disent, mais c'est le fils du charpentier, ce n'est que le fils du charpentier, ce n'est que ça. Ou peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous voyez, c'est réduire les choses, ou quelque chose de grand à ce qui est seulement l'apparence, à son aspect le plus minime. Babel, je ne m'étendrai pas là-dessus cette année, on a vu, est caractérisée par une tour, une ville et un nom. La tour qui aille jusqu'aux cieux, vous voyez aussi cette tentative de réduction du figuré ou du spirituel au matériel. Comme si on pouvait atteindre Dieu à travers une tentative matérialiste. Mais le système, cette fois-ci, est si bien élaboré, si bien articulé, que Dieu ne peut même pas y pénétrer. Il est obligé de dire, si on ne les arrête pas, ils iront jusqu'au bout de leur tâche. Autrement dit, c'est une sorte d'institution qui va tourner comme ça indéfiniment dans une construction sans fin. Et dans la suite de Babel, il est dit, ils ne seront empêchés dans rien, en rien. Et de plus, cette entreprise produit entre les habitants de Babel une unité. On sait très bien que quand un groupe est occupé à une tâche, il est tellement occupé à sa tâche que toutes les angoisses, tous les problèmes, tous les conflits intérieurs disparaissent. Il suffit, tout le monde sait sur le plan politique que pour mobiliser un parti, il faut atteler tout le monde dans une tâche précise. Les gens oublient leurs griefs et combattent un ennemi extérieur ou construisent quelque chose ensemble. Dans cette tentative des gens de Babel, nous voyons apparaître la confusion des catégories, le spirituel et le matériel, la réduction, la localisation du danger encore par clivage et projection, et plus une tentative de maîtrise. Dieu et la religion, c'est ce que nous sommes capables de définir et de construire. C'est une définition opératoire par excellence. Et là s'ajoute aussi à Babel et un renforcement de ce qu'on appelle la mégalomanie infantile. Cette fois-ci, il se donne un nom, faisons-nous un nom. Depuis le début de la Genèse, nous savons que c'est le plus fort qui nomme le plus faible, qui lui donne son pouvoir. Or, dans l'histoire de Babel, c'est les gens qui se font un nom, qui se donnent un nom. Autrement dit, vous voyez la parfaite organisation de fonctionnement sans Dieu. Le troisième type de ville que je mentionnerai juste au passage, c'est Ur. Ur, dont il est dit peu de choses, sauf que Abraham en sort. Maintenant, nous avons Sodome et Gomorre que vous avez dans Genèse 10 et 19. 10-19, enfin dans les chapitres, entre le chapitre 10 et le chapitre 19. Comme les autres villes, Sodome et Gomorre font partie de la lignée des fils de Cam. Cette lignée de grands bâtisseurs. Dans Genèse 13, verset 13, nous avons que les habitants de Sodome étaient méchants, sont réputés méchants et grands pécheurs. Au chapitre 18-20, nous avons que leur péché s'est très aggravé. Et au chapitre 19.5, nous voyons, sans qu'elles soient nommées, des pratiques évidentes d'homosexualité. Cette attitude, cette situation psychique à laquelle arrivent les habitants de Sodome et de Gomorre montre l'aboutissement de la confusion. La confusion, quand il y a une négation des différences, vous avez aussi une négation des sexes. Tout est pareil. Il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un plus faible, tout le monde est pareil. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'adulte. Vous avez toujours cette... On va un pas plus loin dans la négation des différences. Et si nous lisons dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, nous voyons qu'effectivement, l'homosexualité est considérée comme l'aboutissement de tout un cheminement. On n'est pas dans une société, au point de vue éthique, on n'est pas homosexuel comme ça. On le devient justement par cette espèce de négation, d'une part de l'autorité, et ensuite des différences. Et chose intéressante, ces gens de Sodome sont frappés de cécité. Dit, tiens, pourquoi de cécité? Bon, on dirait que ça arrangeait bien les choses, puisqu'il était temps que les anges... sauve Lot, sinon il allait passer un mauvais quart d'heure. Mais en fait, la cécité, c'était une des caractéristiques de ces gens de Sodome qui sont incapables de voir les choses. Et ça, vous avez à travers cette mention-là quelque chose que vous trouvez souvent dans la Bible. Les gens ne deviennent que ce qu'ils ont été, que ce qu'ils étaient. Plus tard, nous le verrons quand la femme de Lot est transformée en statue de sel. Eh bien, elle est transformée en ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire à la fois stérile et inefficace. Toute sa vie, ça a été ça. Elle était incapable d'enseigner à ses filles la loi de l'interdiction de l'inceste, par exemple. Elle était incapable de choisir entre son père et son mari. Elle était toujours partagée en deux. C'est l'image même de l'immobilité et de la stérilité. Et il y aurait beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que les jugements qui arrivent sur les hommes sont tellement déjà préfigurés dans leur conduite que c'est finalement pas tellement étonnant de les voir arriver. Il y a trois aspects dans la conduite des gens de Sodome, dans leur psychologie, qui sont intéressants et qui sont l'aboutissement justement de ces négations successives. On aboutit au non-respect de la personne. C'est dans Sodome que nous voyons les gens pris comme objet. Tout est bon comme objet de plaisir. Pour Lot, qui savait des choses différentes, qui avait été élevé à l'école d'Abraham, un étranger était reçu, était respecté. Pour les gens de Sodome, c'était un simple objet de plaisir, c'était un objet sans plus. C'est plus de personne, c'est un objet. Donc, non-respect de la personne. Aboutissement de toutes les confusions aboutissent toujours à la confusion. La confusion de type éthique aboutissent à la confusion de type sexuel. Et finalement, la cécité apparaît comme une sorte de déterminisme depuis longtemps annoncé. L'autre ville dont il est intéressant de parler, toujours dans cette suite, c'est Jéricho. La destruction de Jéricho pose des problèmes quand on l'aborde comme ça, isolément. On dit, bon, ben c'est un jugement sur ces gens qui... Puis il était écrit qu'ils devaient être détruits pour qu'Israël possède la terre. Mais si nous réfléchissons à la signification de la ville, à cette tentative qu'a été la ville de résoudre le problème du mal et de la culpabilité surtout, en projetant le mal à l'extérieur pour être bon soi-même à l'intérieur, nous voyons que quand les Israélites pénètrent dans la terre promise, en Palestine, ce système n'est plus possible. Et vous relirez attentivement la façon dont Jéricho est détruite. Elle est détruite par d'abord l'arche, tourne autour, et aussi des trompettes. On sonne la trompette en tournant autour de Jéricho. Et elles étaient faites comment, les trompettes? Elles étaient faites avec de l'argent. L'argent du rachat. Quand vous lisez dans les Nombres, vous voyez que les trompettes étaient sonnées pour rappeler que devant l'Éternel, que des hommes avaient été rachetés, que des hommes n'étaient pas morts. L'argent de leur rachat avait été payé. Autrement dit, en face du système de clivage de Jéricho, Dieu propose un autre système du rachat. C'est le dépassement de la culpabilité dans le salut. Et c'est ce système nouveau qui va détruire Jéricho et ce que Jéricho représente. Tout avant la destruction de Jéricho, dans un sens, permet de le comprendre. Il a un ordre nouveau apparaît. Dans le chapitre 5, vous avez la circoncision qui est annoncée. Puis ensuite, la Pâque, chapitre 5 au verset 10, qui est recélébrée. La circoncision qui est aussi un signe de la condamnation, qui est une figure de la mort. Si on meurt, selon Dieu, on peut aussi être vivant. Il a la possibilité de tuer et de faire vivre. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans ce que j'ai appelé l'ambivalence à propos du buisson de Moïse. Et il y a l'arrêt de la manne, la traversée du Jourdain, qui est encore une figure de la mort. Et le chef de l'armée qui apparaît à Josué, toujours dans ce chapitre 5, il s'est passé des choses dans ce chapitre 5, avant la destruction de Jéricho. On a l'impression que tous les jalons de ce monde nouveau sont posés. Et tous traitent d'une façon ou d'une autre de la culpabilité. Justement, d'une autre façon de traiter la culpabilité. Et il est aussi intéressant de voir que quand Jéricho a été détruite, il est dit « Maudit celui qui reconstruira Jéricho ». Ce n'est pas la ville qui est maudite, c'est la démarche qui préside à cette stratégie-là, de cette stratégie de dépassement de la culpabilité. Elle n'est pas possible. Bon, je passerai rapidement sur d'autres modalités de destruction de Jéricho, l'aspect de la patience, l'aspect de la répétition, et qui sont tout l'opposé du processus magique psychologique de clivage. Vous savez qu'on avait tout à l'heure vu la mégalomanie qui préside à la création de la ville, la projection à l'extérieur, le clivage. Eh bien, dans la destruction de Jéricho, il y a autre chose, on se lève de bonne heure. On va travailler inlassablement à la destruction de cette ville en tournant autour. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux qui va se faire comme ça. Ce sera d'une façon miraculeuse parce que Dieu est là. Mais les hommes vont y travailler méthodiquement jour après jour, pendant plusieurs jours, pendant une semaine. Et je pense que là, j'ouvre une petite parenthèse, ça nous met un petit peu dans le climat de ce qu'est le travail avec Dieu. Il est normal de s'attendre à des miracles, parce que nous avons besoin de miracles pour que notre foi soit affermie quelquefois. Mais Dieu nous demande de travailler avec lui d'un autre mode, avec patience, en employant ses moyens à lui régulièrement jusqu'au bout, pour que lui nous donne le succès. On va voir encore deux villes très rapidement dans l'Apocalypse, Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Babylone, dans le chapitre 17.5, cette ville de Babylone, moi, m'a passionné, je vous passionnerai peut-être moins, et du fait de sa personnalisation, c'est une femme. Quand on a une femme, comme ça, on pense toujours à la mère archaïque. Cette mère horrible qui détruit, qui est une mère fantasmatique bien sûr, et qui est très redoutable et qui est à l'origine de la schizophrénie, qui est vue comme ça et qui règne dans la schizophrénie. Et le système de la ville dans l'Apocalypse avec Babylone est cette fois prestigieux et étendu. Avant, les villes c'était de timides tentatives pour canaliser la culpabilité. Là, c'est devenu un système. Mais un système étonnant au point qu'elle est appelée mystère et qu'on la considère avec étonnement. Et là, vous avez dans cet aspect-là tout l'aspect qui attire les yeux. Et il y a dans un des aspects de la culture, un des aspects du monde, comme on dit vulgairement, c'est l'aspect visuel. C'est le niveau de ce qui est ce qu'on appelle la scoptophilie, tout le plaisir qu'on a à voir. Et toutes les tentations, que ce soit les tentations du Jardin d'Éden, que ce soit les tentations plus tard, c'est toujours des tentations qui passent par la vue. Et la vue est considérée comme une pulsion partielle, c'est une des façons dont, pendant l'enfance, on profite beaucoup de la vie, quelquefois longtemps après. Et ce serait très intéressant de voir les transformations de la scoptophilie, de ce plaisir, le plaisir quasi sexuel qu'on a à voir les choses. Or, cette Babylone de l'Apocalypse nous présente comme quelqu'un qui en met plein la vue. Mystère, étonnement, il y a une sorte de fascination gigantesque dans cet étalage de luxe et de richesse. Et elle subjugue tous les rois de la terre, tous marchent. Elle est populaire auprès de tous les rois de la terre. Toutes ce qu'on appelle les pulsions partielles en psychanalyse, savoir, voir, le sadomasochisme, tout ça, ça règne. Nous voyons cette ville qui est, d'abord, on la voit monter sur une bête. Et la bête, dans les rêves, dans psychanalyse, et puis dans la Bible aussi, c'est rien d'original, ce sont les instincts. Elle est dans Babylone, c'est la toute-puissance des instincts. On n'est plus à hésiter entre les lois, etc., les lois, le moi et les instincts. Ce sont les instincts, c'est une civilisation, une culture des instincts. On la voit, elle est appelée aussi la reine des prostituées, toujours au féminin, la reine des prostituées. Vous avez ici érigé en système l'infidélité. On ne s'attache à rien. Et si vous avez eu la curiosité de lire Le meilleur des mondes de Huxley, il y a eu un des slogans de cette cité idéale future, c'est « Tout le monde appartient à tout le monde, il faut surtout s'attacher à personne ». C'est une œuvre littéraire, bien sûr, qui n'a pas la profondeur de la Bible, éventuellement de nos analyses, mais vous avez ça déjà, par intuition. Vous avez aussi dans ce Babylone la toute-puissance de l'argent. Vous avez de l'argent partout, il y a des marchands, vous lirez le nombre de fois où il est mentionné des marchands, je crois 5 ou 6 fois, il y a des marchands, tout se vend, tout s'achète. Il est dit, y compris des âmes d'hommes. Vous voyez où en est arrivée la valeur de la personne, elle se vend et elle s'achète, on achète leur âme. Alors au niveau du sadisme, elle est enivrée du sang des martyrs, il est dit. Autrement dit, tout le monde y prend grand plaisir. Mais c'est tellement grand que ça devient beau. C'est l'esthétique du grandiose, l'esthétique de l'horreur. Les rapports qu'elle établit avec ses subordonnés, ce sont des rapports de séduction, des rapports de toute puissance et des rapports de cruauté. Et on est en plein dans la psychologie archaïque, la psychologie très primitive de l'enfant. Et c'est ce mode de relation produit toujours ce qu'on y voit ici, une sorte d'admiration ambivalente, mais la peur, toujours la soumission et l'envie. Si on avait plus de temps, on verrait comment fonctionne ce type de relation. Quels sont les mécanismes qui président à cette forme de culture? Cette Babylone-là se proclame comme « je ne suis pas veuve et je ne connaîtrai pas le deuil ». C'est très intéressant de voir la négation de la mort. Elle est basée sur la négation de la réalité. C'est encore une des formes de défense, des mécanismes de défense du moi, ça, la négation. La négation de l'homme en tant que personne. Les personnes sont des objets. et tout s'achète. Le troisième aspect, c'est qu'elle fonctionne sur un niveau magique. Il est parlé de magie. D'abord, il y a une magie dans sa présentation, dans sa façon dont elle subjugue les gens, et elle pratique effectivement la magie. C'est dit au verset 23, vous verrez du chapitre 17. Et enfin, le dernier aspect, vous avez ce qu'on appelle la mégalomanie ou la toute-puissance narcissique. Et la règle de cette Babylone, c'est de jouir de tout sans entrave et de toutes les façons. Si bien quand il y a des empêcheurs de tourner en rond, par leur mode de vie par exemple, on les supprime. C'est pour ça qu'il est dit textuellement, en elle a été trouvé le sang des prophètes. On a dit que, bien sûr, ça tombait sous le sens, que la Rome de l'époque était le prototype de Babylone. Mais vous avez ici, dans sa description, quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une simple réduplication d'un phénomène historique. Vous avez très nettement la généralisation du principe de la ville que vous avez vu dans toute la Bible. Cette ville hégémonique qui devient la norme. Et cette fois-ci, les fidèles sont à l'intérieur de la ville. Elle s'est tellement étendue, elle s'est tellement systématisée que vous avez tous les fidèles, les chrétiens maintenant, sont à l'intérieur de cette ville. Et c'est pour ça que dans ce chapitre 17, il y a un appel aux chrétiens d'en sortir, disons à ceux qui ne participent pas à ces stratégies. C'est au chapitre 18, au verset 4, « Et jouit une autre voix venant du ciel, disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. » Évidemment, la Bible parle de péché, ne parle pas de culpabilité, comme nous le parlons pour systématiser. Maintenant, la Nouvelle Jérusalem, et ses caractéristiques, d'abord, elle vient du ciel, celle-là, elle est approuvée de Dieu. Elle est toute transparente. Autrement dit, on voit d'un bout, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aucune de ces pierres ne cache l'autre. Et à travers toutes ces pierres, on voit celui qui y habite. C'est tout un programme. Cette fois-ci, les portes sont précieuses et ouvertes. Il n'y a pas ce fameux clivage du bon et du mauvais, parce que ça n'existe plus. Vous avez ce passage de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez cette simple image sur le plan psychanalytique, appliquée à la personne. On a vu que l'image pouvait être une projection de la personne. Et réciproquement, on peut partir de l'image et revenir à la personne. La personne mature, c'est précisément celle qui n'opère pas de clivage, et dans laquelle on voit très clairement ses intentions, et dans laquelle fonctionnent bien les instances. On peut passer de l'une à l'autre sans blocage, sans clivage, sans refoulement. C'est ça un exemple de la maturité. Et on nous est dit que le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple, autrement dit dans cette ville transparente, on voit celui qui est au milieu. Et ça, je pense que c'est un programme pour les chrétiens qui disent qu'ils ont un Seigneur, qu'on le voit dans leur vie, qu'on le voit à travers leurs personnes, qu'on le voit à travers leurs institutions, que ce soit transparente, qu'elle soit transparente au point où on les voit. Et alors que la Babylone était couverte de bijoux, c'est toute la philosophie de l'avoir, cette nouvelle Jérusalem est faite de pierres précieuses, c'est toute la philosophie de l'être qui est là. Ça n'est plus couverte, c'est plus au niveau des illusions, c'est au niveau d'une réalité, d'une existence. Et comme qualité, évidemment, nous voyons disparaître toutes les pulsions archaïques, puisqu'elle est éclairée par l'agneau à travers sa patience et sa soumission. Et là, on pourrait se dire, pourquoi encore une ville? Alors, si les choses sont si bien que ça, pourquoi avoir reconstruit une ville? Bien, là, je pense que c'est une pensée qui est intéressante, vous y réfléchirez. Je pense que quand l'homme a été l'initiateur, dans ses mécanismes de défense, dans ses stratégies de s'organiser contre l'angoisse et contre la mort, quand il a créé quelque chose, un système, Dieu respecte son système et le transforme. C'est ce que nous voyons, par exemple, quand Adam se fait un vêtement. Il se fait un vêtement de figuier. Dieu lui dit, bon, tu as placé la transgression à ce niveau-là, par déplacement sur la sexualité, eh bien, il l'habille, mais d'un vêtement par un sacrifice, de la peau de, qui est la préfiguration du premier sacrifice, qui se renvoie dans la dialectique à la fois au meurtre et à la couverture du meurtre. Un autre aspect, jamais Dieu a demandé aux hommes de lui bâtir un temple. C'était une idée qui a un jour germé dans l'esprit de David. Et le prophète explique bien à David qu'il n'a jamais demandé ça, qui que ce soit, il habitait sur des tentes au milieu du peuple. Mais comme David a voulu bâtir un temple, eh bien, il lui dit, oui, mais ce n'est pas lui qui le bâtira. Dieu a ordonné qu'on a bâti ça, mais un meilleur, un plus beau. Et c'est la même chose de la ville, vous voyez, puisque les hommes ont inauguré le système de la ville, qui est une image d'un certain type de culture, d'un certain mouvement défensif, eh bien Dieu le respecte, mais il leur en fait une différente, qui possède les qualités de la maturité, les qualités qu'il donne lui, et non pas les qualités défensives et tronquées qu'un homme peut imaginer dans sa fuite devant Dieu et dans la fuite de la culpabilité. Bon, pour résumer tout ça, les mécanismes qui sont présents dans la ville, c'est vraiment très schématique. Nous avons donc la négation et la projection de l'agressivité, de la culpabilité dans Enoch. Le défi au Père et à l'autorité, à Dieu, dans Babel. La confusion et la négation des différences dans Sodome. Avec Jéricho, nous avons déjà, s'amorce l'incompatibilité des systèmes, le système des hommes, le système spontané, inférieur, régressif, au système mature que leur propose Dieu. L'isolation de la culpabilité qui est remplacée par le dépassement de la culpabilité. Nous avons vu que la ville était basée sur l'avoir, sur le pouvoir, sur la négation de la personne, sur la possession, sur la domination, sur la négation de la mort. Et tous ces aspects-là sont tous des aspects que nous retrouvons dans la psychologie primitive de l'enfant, que nous retrouvons dans toutes les régressions de cure, de thérapie. Et toujours, cette angoisse est accompagnée d'une vision de la mère sorcière toute puissante. Autrement dit, ce que l'enfant fantasme, c'est ce que ces hommes ont fantasmé et créé en construisant leur ville. Et à l'opposé, nous avons donc cette transparence totale d'une création réconciliée et unifiée, la libre circulation de l'intérieur vers l'intérieur et le remplacement de l'avoir par l'être. Et la ville apparaît comme une projection et une métaphore de la personne. Et à travers elle, nous pouvons voir les étapes ou nos tentatives, et aussi ce que Dieu a fait pour résoudre notre culpabilité. Bien, je m'arrête là. Le débat est très bien.
C'est pour peut-être que vous précisiez un peu quelque chose que vous aviez dit tout au début plutôt de l'introduction, et cela pour les jeunes auditeurs qui sont là. Est-ce que vous avez parlé de vous avez fait allusion à l'illusion dont parle Freud par exemple?
Oui.
Et ça me fait penser surtout à ce phénomène qu'il appelle la projection du propre père sur le vide, donc sur Dieu qu'il ne voit pas. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ceci est quand même grave pour un chrétien qui, lui, vit cette réalité avec ce père? Alors, ce que je voulais relever, c'est que vous avez l'air de minimiser un peu cette part de Freud qui, à mon avis, apporte beaucoup d'huile à ses successeurs et ses disciples. Et puis, vous avez parlé de science. Je crois qu'il est vrai que les progrès de la psychanalyse sont incontestables depuis les découvertes de Freud, sans pour autant nier les faiblesses aussi qui accompagnent toute science conjoncturale comme celle-ci. Et il faudrait peut-être que vous nous donniez quelques précisions là-dessus.
Bon, alors, deux choses. Il y a la psychanalyse en tant que science et la pensée de Freud sur la religion. Il faut bien voir que Freud était un matérialiste du 19e siècle et qui, en tant que plutôt un positiviste, plutôt qu'il était matérialiste aussi, mais enfin pas tellement, mais il était surtout positiviste. Pour lui, ne pouvait faire objet de science que ce qui était strictement contrôlable et verbalisable. Autrement dit, tout ce qui était hypothèse ou révélation, pour lui, ce n'était pas de son champ. Et vous, quand vous lisez sa correspondance avec Pfister, il le dit, ça. Évidemment, personnellement, sa tendance, c'était de ne pas être croyant. Il le dit lui-même, et il l'était avant l'invention de la psychanalyse. C'est pas la psychanalyse qui lui a apporté une foi, sauf peut-être une foi en la puissance ou l'intelligence de l'homme, parce que peut-être, au fond, s'est-il beaucoup admiré, quoiqu'il ait été un homme modeste. Mais il faut dire que quand on parle à un chrétien, quand on voit vivre un chrétien, très souvent on lui dit « Mais mon ami ou chère madame, vous avez quand même une religion très utilitaire, ça vous arrange bien, précisément vous avez la religion et qui pense toutes vos plaies, tous vos manques, hop, vous mettez la religion là-dedans, autrement dit la religion est à votre service, et ce n'est pas vous qui êtes au service de votre Dieu, c'est souvent comme ça qu'on le voit. Autrement dit, c'est une religion pansement, c'est pas un engagement personnel profond avec Jésus-Christ, par exemple. On se sert de lui, mais c'est normal d'ailleurs qu'elle ait ce rôle-là, mais ce serait souhaitable qu'elle ne soit pas que cela. Et quand une religion, une foi, n'est que cela, on peut s'attendre à ce que des critiques soient émises de l'extérieur et puis amènent à réfléchir sur la façon dont on s'en sert et comment on se situe par rapport à elle. Freud a connu la foi chrétienne à travers une bonne qui était chez eux, qui était catholique. Il n'a connu d'ailleurs, il n'a pas beaucoup approfondi la question. Il a seulement vu un petit peu les pratiques religieuses, les rites. Et les rites, on sait ce que c'est. À titre défensif, c'est quand il a dit que la religion était la névrose du groupe, avait la même fonction que la névrose. C'est vrai, si ce n'est que ça. Et pour beaucoup de gens, ce n'est que ça. Et c'est aux chrétiens de montrer que ce n'est pas que ça. Comme on disait tout à l'heure, on peut faire voir autre chose, il ne suffit pas de dire, on peut peut-être faire voir autre chose. Et puis, Freud a bien distingué entre ce qui était pour lui important, la psychanalyse, c'est-à-dire une science peut-être conjecturale, bien sûr, on va y arriver, et puis sa position philosophique. Il n'a jamais confondu les deux, et je pense que ce serait une erreur de lui faire confondre les deux. Notamment, il a dit que les problèmes religieux, comme les problèmes de fumer le cigare ou d'être juif ou de croire à la la transmission de pensée, c'était des problèmes qui étaient personnels. Ça n'avait rien à voir avec la psychanalyse en tant que telle. Alors maintenant, la psychanalyse en tant que système conceptuel. Je pense que si la psychanalyse n'est pas toujours très efficace sur le plan thérapeutique, pour des tas de raisons, parce qu'il est difficile de définir des méthodes, et puis ensuite de faire de bons ouvriers, par contre, ces acquis sur le plan méthodologique sont à mon avis certains. ça apporte une vision, une cohérence dans la connaissance du fonctionnement mental qu'on n'avait jamais avant. Peut-être aura-t-on de meilleurs instruments plus tard, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de système aussi complet et aussi utile. À tel point que je pense qu'un chrétien peut se servir de concepts psychanalytiques pour mieux comprendre le fonctionnement des hommes qui ont été appelés par Dieu à le servir et mieux comprendre l'articulation de leurs échecs et ne pas voir les choses comme étant parachutées comme ça brutalement sans passer quasi miraculeuse ou quasi spontanée ou tout à fait inattendu. Il y a toujours une genèse dans ces... On les retrouve très bien. D'ailleurs, la Bible nous donne beaucoup, beaucoup de renseignements que nous n'utilisons pas toujours. Par exemple, bon, je n'avais jamais pensé à utiliser de cette façon-là cette énumération et cette fabrication de villes qui sont dans la Bible. Avant de voir les rapports qu'il y avait entre la culture et l'esprit de l'homme, enfin son fonctionnement mental, cette espèce de parallélisme, de projection, ou d'isomorphisme des deux, et aussi le rôle qu'a la culture comme moyen défensif contre la culpabilité. Alors tout s'enchaîne et se retrouve de cette façon-là.
J'aimerais savoir, vous dites, si les chrétiens construisaient une ville, est-ce que le système que vous venez de nous expliquer ne serait pas détruit à ce moment-là, vu qu'on n'a pas besoin de se déculpabiliser puisque nous avons Jésus-Christ?
Ah, excellente question. Si vous posez exactement le problème de David. David avait tout ce qu'il fallait pour ne pas se sentir coupable. Et pourtant, traînait encore en lui un résidu de culpabilité qu'il a voulu tamponner ou étancher par la construction d'une cathédrale ou d'un temple. Pourtant, personne ne lui demandait. Ça jaillit de son propre chef. Mais je pense que Dieu lui a interdit de s'engager dans cette voie-là pour qu'il aille jusqu'au bout de l'appréciation de ce que pouvait être le pardon de Dieu. Il n'a pas besoin de construire quelque chose pour être pardonné. Et il y a un psaume qui souligne ça. Que ferais-je, que rendrais-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? Je prendrai la coupe du salut. Autrement dit, je pense que devant ces culpabilités résiduelles qui traînent toujours chez les chrétiens, je crois qu'il faut approfondir un petit peu la signification de la croix et de la culpabilité résolue en Jésus-Christ. Je crois que c'est là. D'ailleurs, Jean le dit dans son épître. Il dit, si votre cœur vous accuse, Dieu est plus fort que votre cœur. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là. Je pense que la culpabilité, il y a deux choses. Il y a la culpabilité aux yeux de Dieu, celle-là est effacée. Mais la façon dont nous vivons, nous, elle n'est pas toujours effacée. Il peut y avoir des résidus. C'est un sentiment de culpabilité et non la culpabilité.
Est-ce que ce n'est pas possible de faire aussi une place à la louange de la ville dans les psaumes, par exemple la louange de la ville de Jérusalem, la joie de toute la terre, la ville dont toutes les parties tiennent bien ensemble, c'est là que montent les tribus.
Oui.
Et puis la description du peuple de Dieu sous la forme d'une cité dans le Nouveau Testament.
Bien, dans la construction du temple de David et dans ses louanges sur la ville Jérusalem, il y a toute une dimension prophétique qui annonce précisément la cité que Dieu va construire, dont on parle dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, il dit la cité dont Dieu est l'architecte. C'est ça qu'il annonce. D'ailleurs, c'était la ville de paix, c'était la ville de la réconciliation. Je pense que ce sont deux choses qui ne s'excluent pas. D'ailleurs, Jérusalem, ce n'est pas une ville que David a construite, c'est une ville qu'il a prise et qu'il a transformée dans un sens. Mais moi, je suis toujours très, très partagé devant les instincts de construction des gens. C'est comme une sorte de prototype de la bonne œuvre. Je crois qu'il faut y réfléchir. Je ne dis pas que c'est interdit de construire. Il faut savoir ce qu'on fait, c'est tout.
Quelle doit être alors la position du chrétien face aux lois de la cité ?
Vous avez peut-être déjà la réponse.
Non, mais c'est aussi par rapport au texte de Paul, enfin...
Oui, mais je pense que c'est pas du tout contradictoire. Je pense que le chrétien doit être soumis aux lois. Mais il doit savoir que ce type de civilisation n'est pas sa solution et n'est pas la solution. Mais il doit être soumis aux lois dans la mesure où ça ne contredit pas, lui, sa vocation. À un moment donné, il y a peut-être des choix à faire. Et je pense qu'il faut regarder de très près, justement, aux sollicitations, aux impératifs ambiantes, ce qu'on pourrait appeler les lois informelles, parce que les lois formelles, on les connaît, les lois informelles qui peuvent modeler notre vie et qui vont à l'encontre de notre vocation. Dans la mesure où elle se situe à un niveau d'immaturité importante, alors que le chrétien est appelé à la maturité, et qu'ensuite elles ont une fonction de protection contre l'angoisse et la mort, alors que nous, on a un autre programme.
Je crois qu'il faudrait, je vais peut-être paraître un défenseur inconditionnel de la ville, mais il faudrait peut-être aussi essayer de rendre compte de l'exhortation qui est adressée aux Juifs qui sont à Babylone, de prier pour la prospérité de la ville, car leur bonheur en dépend. Là, c'est pas exactement ce qu'il faut faire.
Je pense que là, vous soulevez le problème qu'on a soulevé ce matin, c'est être dans le monde, mais ne pas être du monde. Et c'est là où s'exerce le flair chrétien. Je pense qu'effectivement, il a prié pour que ces choses durent encore longtemps, que Dieu épargne le plus de gens possible. On voit la grâce de Dieu quand il a dit que l'iniquité n'est pas encore rendue à son compte. C'est la confidence qu'il a fait à Abraham. Mathusalem a vécu longtemps parce que son nom signifiait que le jugement arriverait quand il mourrait. Dieu attendait. Ninive aussi. Et je pense que la patience de Dieu ne contredit pas son jugement. C'est ce qu'on verra dans l'énigme du buisson, ça. Et je pense qu'il faut, c'est utile de voir tous les phénomènes culturels comme la tentative de résoudre un problème important pour l'homme. C'est une tentative de résoudre quelque chose. On ne fait pas les choses pour rien. Le sens de la vie et le sens de l'angoisse sont trop importants pour qu'ils ne soient pas toujours en filigrane dans ce que l'homme entreprend. Littérature, ce que vous voudrez.